C'est entre deux représentations de Undertown au Théâtre du Châtelet que j'ai pu rencontrer David Charles Abel, le directeur musical de la production. C'est autour du piano à queue qui trône dans le grand foyer du Théâtre du Châtelet que j'ai pu discuter avec cet éminent spécialiste du théâtre musical de Broadway. Presque rituellement, ma première question, après les salutations et remerciements d'usage, pour le temps qu'il consacrait à notre rencontre pour Canal Academy, que j'ai demandé à David Charles qui il était.
C'est-à-dire, j'aime diriger dans la fosse. Je suis une créature de la fosse, peut-être. Soit l'opéra ou soit la comédie musicale. J'aime bien. Je dirige aussi les concerts symphoniques et c'est aussi un grand plaisir. Mais je crois que peut-être la musique, pour moi, c'est un moyen de raconter les histoires, soit une symphonie de Beethoven, soit une comédie musicale de Bernstein.
Au fond, vous faites trois métiers en même temps, puisque vous dirigez à la fois de l'opéra, à la fois du symphonique, et puis de la comédie musicale. Et finalement, c'est une chose qui n'est absolument pas courante chez les chefs d'orchestre, qui dirigent soit au concert, soit à l'opéra, soit sont spécialisés dans le Broadway Show.
Tout le monde veut que les chefs d'orchestre se spécialisent. Et moi, j'ai une spécialisation dans la comédie musicale américaine. C'est vrai que je suis un peu connu pour ça. Mais ce n'est pas vraiment trois métiers. C'est un seul métier, selon moi. Le boulot, c'est de raconter des histoires avec la musique, comme les compositeurs ont voulu. Surtout dans le théâtre, c'est évidemment, ils ont construit leur œuvre selon une histoire qu'ils racontent, soit un opéra, soit une comédie musicale. Et dans les symphonies, c'est un peu différent parce que il y a la structure de la musique de concert, c'est pas pareil aux structures de la musique du théâtre. Mais moi, je trouve que c'est une structure théâtrale quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse à votre question, mais c'est que moi, j'aime bien être dans tous les trois métiers en même temps.
Et justement, pour être dans ces trois métiers, quelle formation, comment vous êtes-vous construit, vous, en tant qu'artiste, et quel est le parcours que vous avez suivi?
Écoutez, ma mère m'a amené à l'église à l'âge de 8 ans, et elle a dit au maître des chœurs, allez, faites que vous pouvez avec lui. Il a une voix très basse. Je ne crois pas que vous auriez du succès de faire chanter haut, mais essayez. Et je suis devenu membre du chœur dans l'église et ça m'a beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis j'ai étudié la trompette, le piano, l'orgue et l'alto. L'alto, c'était mon instrument principal. Mais j'ai continué à chanter, j'ai dansé un peu aussi à mon école, qui était très bonne dans les arts, tous les arts. J'ai joué dans les orchestres, j'ai composé un peu, j'ai orchestré, et enfin, j'ai commencé à diriger l'orchestre. Un jour où le professeur était malade, on m'a appelé parce qu'il n'y avait personne pour diriger l'orchestre. Est-ce que tu peux diriger, David? Et je dis, oui, je le peux. Et j'ai essayé. C'était très impressionnant d'avoir un grand orchestre devant soi, comme ça. Et je me suis dit, oui, c'est ça que je voudrais faire. Et après, comme formation, je continue à étudier la musique. J'ai étudié à l'université de Yale, qui était formidable. Et j'ai eu est-ce qu'on dit le baccalauréat? Oui, en musique. Et ben ça, c'était un baccalauréat de théorie et d'histoire de musique. Et si on voulait faire les performances, les représentations à Yale, on était obligé de l'organiser soi-même. Alors, j'ai dirigé pour le Dramat d'Yale, la comédie musicale. J'ai fait des concerts dans les salles de manger, salles à manger. Et j'ai fait les opérettes, Gilbert and Sullivan. Et après, je suis allé à Juilliard, conservatoire Juilliard à New York, pour étudier vraiment la direction d'orchestre sérieusement.
Alors, il y a une chose que...
Il faut le dire, excusez-moi, aussi, parce que c'était un public français, il faut le dire que je suis venu à Paris à l'âge de 19 ans pour étudier avec Nadia Boulanger.
Wow.
La grande Nadia Boulanger, qui était tellement influençale chez les compositeurs et les musiciens américains.
question pour les néophytes qui ne comprennent des fois pas à quoi sert un chef d'orchestre. Donc ma première question, c'est à quoi sert un chef d'orchestre, suivi de quel est le plaisir particulier d'être un chef d'orchestre et de diriger un orchestre?
C'est une très bonne question. Oui, il y a d'abord le plaisir d'être chef d'orchestre, c'est quand on a la meilleure place dans la salle pour écouter la musique. Parce qu'on est là, on a l'orchestre tout autour de soi. Mais pour être sérieux un moment, le boulot d'un chef d'orchestre, ouais. Il est possible de enseigner la technique de base dans 10 minutes. Parce qu'il y a un langage de gestes pour un chef d'orchestre qui est universel dans tout le monde, que ça c'est le ton. Et si on dirige en deux, c'est comme ça, un, deux, un, deux. Si on dirige en trois, un, deux, trois. Et en quatre, un, deux, trois, quatre. Alors, ça, c'est la technique de base. Et d'abord, il faut savoir commencer l'orchestre ensemble et finir l'orchestre ensemble. Et entre ces deux points-là, il y a beaucoup à faire. Il y a le tempo, il y a l'équilibre des instruments qui est très important. Où est la mélodie? Où est l'accompagnement dans l'orchestre? Alors, le bois et la mélodie. Donc, s'il vous plaît, un peu plus le bois, les cordes, pas autant. Et les cuivres, pas autant, s'il vous plaît. Aussi, le plus important, je crois, c'est on dit en anglais le pacing. Comment dit-on en français? Pacing.
L'apaisement,
le progrès, oui, de la musique, où ça doit pousser et où ça doit retirer un peu. Et dans une pièce théâtrale, c'est très important parce que, comme on raconte une histoire, il faut sentir les émotions des personnages sur la scène. Même si on est chef d'orchestre, il faut le sentir et pousser l'orchestre quand il faut le pousser et retirer et ralentir quand il faut ralentir. Et ça, c'est quelque chose de feeling, je crois. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à enseigner, ça.
Mais vous l'avez très bien expliqué. Et y a-t-il des chefs d'orchestre qui vous ont définitivement marqué dans votre développement d'artiste, des gens avec qui vous avez travaillé et qui vous ont imprimé un tel souvenir que souvent vous pouvez vous référer à eux?
Bien sûr, il y a Leonard Bernstein. J'ai étudié avec Bernstein à New York dans les années 80. Et lui, il était un grand homme, un grand intellectuel, grand musicien. Il faisait tout. Il était compositeur, chef d'orchestre, pianiste et professeur de musique, dans le sens qu'il était professeur pour tout le pays des États-Unis, pour la musique, à la télévision. Il écrivait des livres comme The Joy of Music, qui a beaucoup influencé toute une génération d'Américains, et pas seulement les musiciens, mais les Américains ordinaires. Et j'ai travaillé avec lui, j'étais éditeur pour sa musique pendant 10 ans, à la fin de sa vie. Et j'ai assisté aussi à ses concerts, je l'ai assisté sur des pièces, surtout des pièces théâtrales comme Mass. C'est une pièce, c'est une messe, mais c'est une pièce de théâtre pour chanteurs, danseurs et musiciens. Et j'ai fait aussi mes débuts professionnels avec Mass à Berlin à l'âge de, je sais pas, 23 ou quelque chose. Et Il m'a beaucoup influencé. Il n'y aura jamais plus un chef d'orchestre comme lui. Il était plein d'énergie, plein de talent et plein d'enthousiasme. Et il avait un effet sur ses musiciens que je n'ai jamais vu autre part.
Change my point of view, and now I will give up.
Au fond, David, vous êtes une relique. Vous avez connu...
Une relique une... J'espère que non.
Vous avez
bien préservé, j'espère.
Bien sûr.
Mais... Merci beaucoup.
Voilà. Vous êtes une relique à vénérer. Vous avez connu Einstein. Au fond, vous êtes son fils spirituel. Maintenant que vous dirigez Undertown au Châtelet, vous avez à la fois le plaisir d'insuffler votre esprit à la pièce, mais aussi de préserver l'esprit du maître avec lequel vous avez travaillé.
C'est intéressant parce que j'ai connu Lenny quand il avait déjà 65 ans. Et cette pièce-ci, On the Town, était écrite quand il avait 25-26 ans. Alors, il y a une énergie là-dedans de jeune. Et tous les créateurs d'On the Town, Jerome Robbins, Adolph Green, Betty Comden, étaient jeunes à ce moment-là. Et les personnages dans la pièce sont jeunes. Il y a une énergie incroyable dans la pièce. Et moi, il faut que je trouve à mon âge-ci de me sentir comme quelqu'un de 20 ans avec cette énergie et pousser l'orchestre et pousser la troupe sur la scène avec une intensité. Et aussi l'histoire de On the Town, s'agit d'une seule journée à New York. Il faut dans 24 heures experience everything in 24 hours.
Dans cette partition, alors peut-être c'est moi qui projette beaucoup dans ce que je vais vous dire, j'entends aussi l'influence de la personne avec qui il avait une relation amicalo-amoureuse et qui est un compositeur extrêmement estimable, Mark Blechstein.
Ah oui, ça c'est intéressant. Je n'ai pas connu Blechstein.
Il est mort, il était mort depuis fort longtemps.
Oui, depuis longtemps. Mais oui, Lenny, il connaissait tout le monde du monde musical. Il était là pour... non, il était pas là pour la première de The Cradle Will Rock.
Non,
The Cradle Will Rock était une espèce de comédie musicale très révolutionnaire dans les années 30, je crois.
Oui, un spectacle finalement socialiste américain.
Exactement.
Commandité par Roosevelt dans le cadre du WPA.
Oui.
Project.
Et écrit par Mark Blechstein. Et Lenny était grand admirateur de Blechstein et de cette pièce. Et il l'a produit à l'université de Harvard comme étudiant. Il étudiait là, il avait 19 ans, je ne sais pas. Et il a organisé une production de The Cradle Will Rock et dirigé et fait tout. Il a fait tout sur ça. Alors, il est devenu très proche à Blechstein. Je ne sais pas si c'était une relation amoureuse ou pas, mais c'est très possible. Oui, il y a sûrement l'influence de Blechstein dans la musique.
Il me semble dans l'âpreté de certaines attaques, de certaines phrases, le côté coupant,
oui,
de certaines mélodies que l'on retrouve dans The Town.
Absolument, absolument. Et moi, je trouve aussi beaucoup d'influence de Aaron Copland, qui était
le troisième larron, finalement, parce que c'est Copland, Blechstein et Bernstein.
C'est le dynaste.
La dynastie.
Le dynaste gay américain, en fait, qui était, autant là, c'était un peu caché, le fait que tous les trois, ils étaient gays ou bisexuels. Mais c'est vraiment, c'est une tradition qu'on a aux États-Unis dans la musique, mais je crois qu'on a dans tout le monde une tradition cachée, gay, dans la musique. Copland était... mais c'est un peu comme Blechstein, que Bernstein était grand admirateur de la musique de Copland. Il a fait des efforts pour connaître Copland. Il était à une fête à New York dans, je ne sais pas, 1939, quelque chose. Et Copland était là. Et il n'avait, avant ça, il n'avait pas connu Copland. Et il a entendu Copland déjà. Il est allé au piano. Il a joué, par mémoire, par cœur, les variations pour piano de Copland, qui est un œuvre très moderniste, très difficile, que Lenny a eu par cœur à l'âge de 18-19 ans. Et Copland était étonné, mais qui est ce garçon qui connaît ma musique comme ça? Et ils sont devenus amis, ils ont collaboré un peu. Lenny a arrangé El Salón México, un œuvre de Copland pour le piano. Et pas seulement arrangé, mais il a réorganisé le meter. Il a fait, non, c'est pas 4-4 ici, c'est 3-8, c'est 5-8. Vous n'avez pas bien écrit, Aaron. Moi, je l'écris bien. C'est plus facile comme ça. Et ils ont collaboré jusqu'à la fin de la vie de Copeland.
Oui, c'était un groupe très lié à ce que je crois savoir.
Et oui, absolument.
Bergin était très, très ami avec Copeland, qui était plus placard finalement que les deux autres, et que oui. Lui et Bichstein.
Oui, il y a des lettres entre Bernstein et Copeland, c'est très intéressant.
Oui. Et la correspondance aussi avec Bichstein est très intéressante.
Ah, je ne connais pas ce avec Bichstein, mais avec Copeland, ils ont parlé évidemment de la musique, mais aussi des garçons. Parce que Lenny a dit, tu aurais dû voir hier soir, j'ai eu un très très beau mec. et on a dit, mais sois sage Lenny. Attention.
Que demande le fait d'être un chef d'orchestre de comédie musicale? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir diriger une comédie musicale?
Il faut être collaborateur, il faut être partie d'une équipe. Parce que les comédies musicales sont créées par les équipes, pas d'une seule personne. Ce n'est pas seulement Leonard Bernstein qui a écrit On the Town, c'est la collaboration avec le metteur en scène et les écrivains de livrets et des lyriques. Alors, être chef d'orchestre, il faut être flexible. Il faut avoir un point de vue, certainement. Il faut avoir un tempo qu'on veut pour chaque morceau. Mais il faut savoir qu'il y a des danseurs et il faut qu'ils dansent avec la musique. Il faut regarder, il faut entendre les chanteurs. Est-ce que ça va pour le chanteur ce soir-ci ou pas? Si on est un peu malade, peut-être le tempo va un peu plus vite ce soir-là. Il faut toujours réagir à ce qui arrive sur la scène et dans la fosse. Et aussi, il faut savoir l'orchestre et savoir l'orchestration. Et il y a une chose particulièrement difficile chez la comédie musicale, c'est que pour beaucoup de comédies musicales, il n'y a pas de partition d'orchestre. Il y a seulement une partition à piano-chant et les parties. Alors, parfois, on met les parties sur les pupitres et on ne sait vraiment pas ce qui joue le premier clarinet, ce qui joue la flûte, ce qui joue la... Et on est un peu aveugle dans ce moment-là. Alors, moi... Quand je fais les comédies musicales, s'il n'y a pas de partition d'orchestre, et heureusement, il y a une partition d'orchestre pour On the Town, mais s'il n'y a pas, je la crée sur ordinateur. Il y a des programmes et il faut mettre la partie de flûte, la partie de hautbois, la partie de clarinet, tous ensemble, et puis on peut voir ce qu'il y a. Et c'est la faute aux éditeurs, il faut le dire, malheureusement.
Disons-le.
Et moi, en fait, j'ai un projet au moment de créer une édition critique de Kiss Me Kate de Cole Porter. J'espère publier la partition d'orchestre de Kiss Me Kate. Et je parle actuellement avec le Cole Porter Trusts à New York. Et on essaie de gagner l'argent pour faire ce projet parce qu'il n'existe pas encore une édition critique comme vous avez ici pour Offenbach grâce à M. Keck, merci.
Absolument.
Beaucoup. Il n'existe pas encore une édition d'une comédie musicale américaine qu'on peut acheter et performer la partition.
Quels sont vos grands souvenirs de chef d'orchestre?
Il y a toujours des histoires marrantes de diriger. Je faisais Carmen en tournée une fois et je faisais la version avec dialogue. Alors c'est quasi une comédie musicale, hein, dans cette version-là, Carmen, la plus grande comédie musicale de tous. Et je faisais une tournée aux États-Unis de 2 mois, 3 mois. Et après un mois, j'avais tout par cœur. Alors, je ne suivais pas la partition dans la fosse, je dirigeais par mémoire. Et je suis venu à la fin de la
près des remparts de Séville.
Séguédille.
Ah oui.
Alors, je suis arrivé à la fin de la Séguédille et elle a chanté très très bien, elle était comme ça. Et je me suis dit, ah, très bien, elle a très bien chanté. Et maintenant, les dialogues. Et elle a fait l'applaudissement terminé, elle a fait à moi. Et je dis, oh, ce n'est pas de dialogue. Ah, oh, merde, ce n'est pas de dialogue. Alors, c'est de la musique, mais c'est quelle musique? Je ne me rappelle pas. Et je me suis dit, ah, ça doit être le destin. Alors, j'ai donné l'attaque comme ça. Et les altos ont commencé, et ils ont arrêté comme ça. Et je me suis souvenu que ce n'était pas du tout ça. C'était une musique très vite, et ils ne pouvaient pas jouer une musique vite avec une attaque comme ça. Alors, c'était le moment le plus embarrassant de ma vie. Et la mezzo-soprano ne m'a pas parlé pendant le reste de la tournée, la pauvre. Elle avait raison.
Vous avez des œuvres que vous aimez diriger plus que d'autres?
Oui, il faudrait dire que Don Giovanni, c'est le sommet pour moi. C'est le plus grand opéra de tout. Et je l'adore. J'adore Mozart, j'adore Wagner. Je n'ai pas beaucoup dirigé Wagner jusqu'à maintenant, mais j'espère de le faire de plus en plus. Et j'adore aussi la musique américaine, évidemment. La musique de Copland, par exemple. J'ai fait sa troisième symphonie deux fois. Et c'est une très, très grande œuvre, très populaire et sérieux. En même temps.
Après Undertown à Paris, quels sont vos projets? Racontez-nous.
J'ai l'idée de faire cette édition critique de Kiss Me Kate qui prendra beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Et j'ai des enregistrements déjà faits, un opéra que j'ai fait, que j'aimerais bien trouver une marque, un disque pour, et d'autres projets. Mais stay tuned. J'aimerais bien aussi revenir à Paris parce que je me suis beaucoup amusé ici et j'aime beaucoup travailler au Châtelet.
Belle maison.
Oui, formidable. Le théâtre, c'est un théâtre incroyable.
David Charles Labelle, merci et bonne continuation, bon vent et à très bientôt à Paris.
Merci à vous.